VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Il est midi ici à Washington, 16h en temps universel. Les milices islamistes Shabab de Somalie ont revendiqué ce mercredi un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Camille Gros-Didier.
Un kamikaze au volant d'un véhicule piégé a percuté une voiture d'escorte d'un convoi de l'ambassade des Émirats Arabes Unis dans la capitale somalienne. L'explosion a coûté la vie à au moins 6 personnes et fait 6 blessés selon les médias. Mais le personnel diplomatique serait indemne. Nous avons visé des délégués ennemis des Émirats Arabes Unis et nous leur avons infligé des dégâts à eux et à leurs forces, a déclaré Sheikh Abdiassis Abu Moussab, porte-parole des opérations militaires du groupe rebelle qui est cité par Reuters. Hussein Afra, un officier somalien, a déclaré que l'attaque visait des instructeurs militaires venus des Émirats Arabes Unis.
Au Togo, Fort Gnassingbé réapparaît en public après une absence médiatique longue d'une vingtaine de jours qui alimentait des rumeurs sur son état de santé. Le président togolais a été montré à la télévision publique ce mardi à la suite de deux audiences au palais présidentiel de Lomé 2, Jacques Aristide.
Fort Gnassingbé revient sur la scène publique et il est en forme, du moins en croire plusieurs sites d'information togolais tels que Togo Breaking News et lomecity.com. Non seulement le chef de l'État togolais a apparu à la télévision nationale mardi soir, mais a également été vu en compagnie de deux personnalités. La première, Biza Williams, la sous-secrétaire américaine aux affaires africaines. Arrivée lundi, Madame Williams avait fait savoir qu'elle allait rencontrer notamment des dirigeants politiques togolais et des représentants de la société civile lors de son séjour de deux jours. À l'agenda également, la remise d'un chèque de 70 millions de francs CFA aux ONG engagées dans le planning familial. À la sortie de son tête-à-tête avec le président togolais, la diplomate américaine a été montrée à la télévision avec un Fort Gnassingbé arborant un grand sourire. Mahamat Nassissé Gourau, qui est à la tête du service Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, était l'autre personnalité qui s'est rendue au palais présidentiel, une visite dont les images ont aussi été relayées sur le petit écran. Pour les médias togolais, ces audiences accordées par l'homme fort de Lomé sont venues mettre un terme aux folles rumeurs sur l'état de santé de Fort Gnassingbé qui n'avait pas été vu depuis le 5 juin dernier.
Le gouvernement de transition au Burkina Faso doit concentrer tous ses efforts sur les élections d'octobre, estime l'International Crisis Group dans un nouveau rapport. L'ONG s'inquiète du fait que dans un contexte marqué par des tensions politiques et une forte agitation sociale, des représentants de l'ancien pouvoir soient exclus des prochains scrutins, ce qui ouvrirait la porte, je cite, à d'interminables arguties juridiques et menace le respect du calendrier électoral, souligne Amnesty International Crisis Group. Pour plus de précisions, Camille Gros-Didier a joint à Dakar Cynthia Obaron, chargée de l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
Il y a un nouveau code électoral en fait qui a été voté en avril et ce code prévoit que sont exclus des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle qui visait à autoriser le président Blaise Compaoré à briguer un autre mandat. Donc ce code électoral, même s'il est un peu flou, est très ambigu et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va être appliqué. Il vise à exclure en fait les anciens soutiens du président Compaoré, donc la classe politique dirigeante sous l'ancien régime. Et donc ce qui est dangereux un petit peu, c'est ce risque de les exclure, de ne pas leur permettre de s'exprimer dans les urnes et ça risquerait de les pousser vers des stratégies extra-électorales de contestation, voire de déstabilisation ou de sabotage du processus électoral. Donc c'est une menace qui pèse de manière incertaine, mais qui pèse sur les élections.
Dans votre rapport, vous notez que le gouvernement burkinabé de transition est pris au piège de ses propres errements. Qu'est-ce que vous disiez par là?
Effectivement, en fait, le gouvernement, quand il a été mis en place, ça s'est fait dans un contexte un petit peu d'euphorie post-révolutionnaire où on ne pensait pas que la chute de Compaoré était possible. Donc il y a eu énormément d'attentes populaires qui se sont accumulées autour de la mise en place de ce gouvernement. Et le gouvernement a fait énormément de promesses, donc notamment le premier ministre Isaac Sida, qui est issu de la garde présidentielle de Compaoré, a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis justement qu'il allait dissoudre cette garde présidentielle, qu'on appelle le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle.
Voilà, c'était Cynthia Ohayon, chargée de l'Afrique de l'Ouest à l'International Crisis Group. En RDC, la plainte a été déposée par Lujobo Bambi, conseiller spécial du président congolais en matière de la bonne gouvernance. La RDC occupe la 154e place de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Nicolas Pinot a joint Ernest Mpararo, président de la LICOCO, la Ligue congolaise contre la corruption.
Sur la plainte, effectivement, de la présidence, il y a plus ou moins une vingtaine de cas. Et ces vingtaines de cas impliquent à peu près 50 personnes. Et la plupart des cas sont répertoriés de la manière suivante. Il y a des cas d'importation frauduleuse des billets des banques en devises étrangères, ou ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Et il y a le deuxième cas, c'est le transfert frauduleux des fonds, comme on appelle le fuite des capitaux. Et sur ce cas, il y a des sociétés privées qui sont impliquées. Il y a des personnes privées qui sont impliquées et des personnes publiques, c'est-à-dire les autorités publiques. Le troisième cas des dossiers qui ont été déposés, il y a des dossiers de fraude douanière qui impliquent les agences en douane, les responsables des douanes et certains responsables des services d'impôts. Et le quatrième cas, c'est des cas de détournement des données publiques et de corruption. Et cela implique des fonctionnaires de l'État et des personnalités politiques et privées. Donc nous pensons que d'ici demain ou dans les deux jours qui suivent, nous devons voir le procureur général de la République interpeller toutes ces personnes-là pour que les enquêtes continuent très bien.
Voilà, c'était Ernest Mpararo, président de la LICOCO. Au Mali, le gouvernement a signé un contrat de concession pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Kéni d'un montant de 72 milliards de francs CFA. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution de ce projet. Mamadou Frankali Keïta.
Centrale hydroélectrique au fil de l'eau, elle sera équipée de trois groupes totalisant une puissance installée de 42 MW, dont 34,5 MW garantis et un productible moyen de 188 GWh par an. Elle est destinée à être raccordée au système électrique interconnecté du Mali, dont elle devra contribuer à la baisse du coût de production de l'électricité.
Avec une puissance installée de 42 MW, cet aménagement hydroélectrique doit relever le défi énergétique au Mali. Marc Alebora, directeur du groupe Aéronovic.
Ce barrage hydroélectrique produira une énergie renouvelable au profit des populations maliennes, correspondant à la consommation annuelle moyenne de 175 000 foyers. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de contribuer à travers ce projet à la politique nationale du renforcement des infrastructures de la République du Mali.
La signature de ce contrat de cession est le couronnement de plusieurs années de travail entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau du Mali et AIFES, International Finance Corporation, membre du groupe Banque Mondiale, leader dans le financement d'énergie renouvelable dans les pays émergents. Alain Ebolizé, responsable mondial de AIFES.
Et je crois qu'à travers le projet kényan, nous avons déjà mobilisé une société importante comme le groupe Eranov, mais également nous apporterons d'autres financiers qui travailleront à nos côtés avec le gouvernement du Mali pour financer ce projet selon la formule des partenariats publics-privés.
Le Mali apportera sa part dans la construction de ce nouveau barrage. Les travaux de cette nouvelle infrastructure hydroélectrique démarreront en 2016. La mise en service de la centrale est prévue en 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En France, l'Élysée qualifie d'inacceptables les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient mis sur écoute le président François Hollande et ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, et souligne la détermination du gouvernement français à ne tolérer rien qui menace la sécurité du pays. Propos contenus dans le communiqué de la présidence française après la réunion de François Hollande avec son conseil de défense aujourd'hui même pour discuter des révélations de Wikileaks, révélations relayées par le quotidien Libération. Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur américain à Paris, Jane Hartley, au Quai d'Orsay, pour une demande d'explication. Côté américain, la Maison-Blanche a assuré hier soir que les États-Unis ne ciblaient pas les communications du président Hollande et ne le feraient pas. Et selon l'AFP, citant le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, le coordonnateur du renseignement à la présidence française, Didier Lebret, se rendra dans les jours qui viennent ici aux États-Unis pour parler avec les autorités américaines des révélations de WikiLeaks. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.